Bonjour, pour ouvrir la nouvelle saison de La Perle à rebours, je reçois avec les complicités de Christelle Bilan, Laurent Messager, Philippe Boidron et Nasser Zouran, Dobritz et Cyrilda. Dobritz est un artiste dessinateur de presse, né proche du Centre Cosmique de l'Univers, auteur de nombreux dessins et d'une vingtaine de livres, dont « Au pays des merveilles » et « Rock'n'roll » paru aux éditions Velvet. Et Cyrilda dirige les éditions Velvet depuis le 25 avril 2018. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au duo auteur-éditeur, puis au métier de dessinateur de presse, et enfin à l'œuvre et aux livres parus aux éditions Velvet. Cyril, pour avoir une chance d'être publié aux éditions Velvet, je suppose qu'il faut être en accord avec le manifeste qui est publié sur ton site. Vous recherchez ou tu recherches des auteurs, autrices insubordonnés, engagés, témoins d'une société en mutation dont l'œuvre est imprégnée d'un regard à la fois critique et optimiste, c'est-à-dire...
Ça, c'est du cahier des charges. Bonjour Michel. Je suis coéditeur. On est deux aux éditions Velvet, moi-même et mon ami associé Barbara Stenner, l'autre tête de l'hydre Velvet. Et donc, le manifeste que tu as la gentillesse de citer, effectivement, on l'a mis quand on a créé la maison d'édition pour affirmer un peu notre ligne éditoriale. C'est-à-dire que plutôt que de recevoir un peu tout et n'importe quoi comme manuscrit, on a dit aux auteurs, autrices, bah, lisez le manifeste. Si vous vous reconnaissez dedans, ça serait un premier critère. Et après,
ils ne le lisent jamais, de toute façon.
Alors si, la plupart quand même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éditeurs qui mettent leur ligne éditoriale explicitement sur leur site web, mais c'est le propre des petits éditeurs de faire autrement. Et après, le critère, c'est simplement le temps et le plaisir qu'on va passer sur chaque livre, parce qu'un livre, c'est quand même beaucoup de travail, et il faut que la relation soit amicale et sympa entre les deux parties.
Dobritz, être insubordonné et engagé pourrait ne rien signifier pour qui serait retraité depuis 2017, donc non soumis à une quelconque autorité et passionné par l'univers minéral.
C'est le propre du dessinateur de presse d'être un petit peu insubordonné. C'est un métier très solitaire, donc ni Dieu ni maître, comme disait Léo. Et puis voilà, après, faire un bouquin, c'est un choix. C'est un choix d'idées, c'est un choix de graphisme, c'est éventuellement de nouvelles directions pour moi qui suis dessinateur, voilà. Mais insubordonné toujours.
Et l'univers minéral, c'est parce que j'ai interrogé avant d'être formé à une IA, quand on fait référence à Rock'n'Roll, on le place dans un univers minéral.
Ah oui, ça, c'est le livre que j'avais fait aux éditions Velvet précédemment, oui. C'était Rock'n'Roll, Rock, R-O-C-S, si tu veux, on peut en parler. Maintenant, les dessinateurs de presse, ils ont tendance à mettre deux petits personnages qui discutent. Et je m'étais dit, mais pourquoi perdre autant de temps à faire des personnages, autant dessiner des rochers qui discutent, ça va plus vite, et voilà, on peut en reparler.
Ou des forêts qui pratiquent la langue de bois.
Voilà.
Cyril, alors je ne sais pas comment la rencontre s'est faite entre vous, qui est allé...
Alors la rencontre s'est faite par un mail, on a reçu le mail, on a reçu un mail...
Ah donc c'est une demande de Dobritz.
Dobritz pourra confirmer, mais qui je crois s'était trompé d'éditeur en fait.
Non.
Mais la vérité ça c'est arrive. Qu'on faisait nous déjà une collection de BD pour enfants, de strips, et c'était un format à l'italienne. Donc le format à l'italienne, pour préciser, c'est un format de lecture, l'objet livre est horizontal et non vertical, et c'est spécialement adapté au strip. Et l'album Rock'n'Roll dont nous parlons, qu'on a édité l'an dernier, était précisément un album de strip. Et c'est pour ça que Dobritz nous avait écrit à la base. Donc moi j'étais très content, parce que je connaissais évidemment Dobritz, je connais bien le dessin de presse, donc je connaissais évidemment. J'étais très très surpris et très flatté qu'il nous écrive. Et quelle n'a pas été ma surprise de constater que non seulement il nous avait écrit, mais surtout qu'il habitait Carquefou, c'est-à-dire pas très loin de chez nous, de chez moi. Et donc ça a été voilà, première prise de contact. Alors, on s'était déjà croisé fortuitement à un
Paris,
prix
oui.
Presse Citron à Paris il y a des années.
Oui.
Mais voilà, donc ça s'est fait comme l'envoi de manuscrits normal en fait. J'ai reçu ça dans la boîte mail et puis après on a pris contact.
Qui vous vouliez contacter en premier?
C'est-à-dire que moi je fais partie d'une génération où... Pour ceux qui nous écoutent et qui ont moins de 50 ans, ça, ils peuvent pas comprendre, mais on se baladait avec notre carton à dessin. Donc, comme moi, j'habitais Paris, j'allais voir les éditeurs, on voyait les gens comme ça. On montrait, on rencontrait un directeur artistique, on étalait notre carton à dessin, on montrait nos dessins, ça plaît pas, salut, au revoir. Mais maintenant, il faut envoyer des mails. Il faut envoyer des mails avec des dessins que vous proposez. Le problème, c'est que si vous envoyez un mail, vous savez pas, déjà, 90 fois sur 100, ils répondent pas. Et en plus, vous ne savez pas s'ils l'ont reçu, s'ils ne l'ont pas reçu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fin de compte, vous envoyez 30 mails, 40 mails. Et dans le lot, j'avais vu que les éditions Velvet faisaient du strip. C'est comme ça, mais ça n'a pas été fortuit. Mais disons, il faisait partie du lot des 40 éditeurs auxquels j'ai envoyé le manuscrit, et il n'y en a qu'un qui a répondu, le pauvre, c'est Velvet. Personne ne répond, c'est dramatique.
Oui, mais ça suggère que vous vouliez à tout prix être publié, édité.
Quand on est dessinateur de presse, on aime que nos dessins soient vus. Sinon, on ferait... Comme je dis toujours, moi, je ne suis pas un peintre du dimanche, je suis un peintre de la semaine. Le peintre du dimanche, il garde ça pour lui. Moi, il faut que mes dessins soient vus, publiés. C'est la fonction même du dessinateur de presse. Si c'est pour dessiner pour soi, non, j'y arrive pas. Je crois que si je ne trouvais pas d'éditeur, j'arrêterais de dessiner, puis j'ai un petit train électrique, donc je m'amuserais avec mon train électrique.
Ça met de la pression, Cyril. Parce que sinon, c'est la disparition de Brits annoncée.
Oui, oui, on est une sorte de fondation d'espèces en voie de disparition chez Velvet. C'est vrai ce que tu dis, Dobritz. Il y a aussi ce côté donner sa place au dessin. Le dessin de presse n'est pas une activité qui se porte très bien. Beaucoup de journaux qui pratiquent le dessin de presse ont disparu. On peut citer Ciné Mensuel cette année, par exemple. Et du coup, il y a beaucoup moins d'endroits où ça s'exprime. Alors, il y a les réseaux sociaux, bien sûr. Beaucoup de dessinateurs, dessinatrices publient sur Instagram ou sur d'autres plateformes. Mais l'objet livre, il est connu dans le monde de l'édition pour ne pas être très facile à faire, parce qu'on considère que le dessin de presse est périssable. Mais c'est la différence avec le travail de Dobritz, c'est que ce n'est plus du dessin de presse du quotidien, du dessin d'actu, c'est du dessin de presse appliqué à des choses beaucoup plus pérennes. Donc les livres qu'on a fait avec Dobritz, on peut les lire dans 3 ans, dans 10 ans, ils sont toujours aussi beaux et toujours aussi pertinents. Et ça, c'est parce qu'il y a une carrière derrière de dessinateur de presse qui sait quoi dessiner, qui a son propre regard sur les choses et qui n'est pas sur la crème et l'écume de l'actualité.
Mais il me semblait que sur Internet, rien n'était effaçable. Vous pouvez toujours trouver un dessin. Mais c'est peut-être parce que, Dobritz, tu n'as pas l'ambition d'être vu par des millions ou des milliers ou des milliards de...
Si, moi, mes dessins sur Internet, je suis sur Instagram, sur Facebook, je mets mes dessins. Ils sont même en haute définition, si les gens veulent les reprendre, ils les reprennent. Mais moi, je ne fais pas partie de cette génération. Il ne faut pas oublier que c'est arrivé dans les années 2004-2005. Moi, je suis un dessinateur qui est bien avant. Donc, je n'ai pas grand-chose sur Internet. Ce n'est pas ma tasse de thé, entre guillemets. Mais je mets des dessins sur Instagram pour qu'ils soient republiés. Mais c'est plus compliqué maintenant pour les dessinateurs, parce que mettre des dessins sur le web, comme on dit, il faut être rémunéré, c'est quand même un métier. On oublie aussi souvent que c'est un métier. Moi, j'ai gagné ma vie comme ça, je touche une retraite, j'ai une carte de presse, j'étais journaliste. Donc maintenant, c'est plus compliqué, parce qu'on se dit, bah oui, on peut aller sur le web, mais il faut quand même que les dessinateurs ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Hein.
Et les éditeurs non plus, d'ailleurs.
Ah ouais, bon.
Mais là, vous allez faire fortune après cette émission.
C'est sûr.
Cyril, dans le contexte actuel économique, dans le contexte aussi des subventions qui ont tendance à me nuire, comment se portent les éditions Velvet ?
Alors, les éditions indépendantes, je peux parler de notre cas, mais je peux généraliser. En fait, le modèle économique, le business model, est très, très fragile. Et donc, la plupart des éditeurs indépendants sont globalement bénévoles ou ont d'autres activités qui permettent de financer les livres. Et c'est notre cas. Donc, on a des activités annexes, Barbara et moi-même. Et l'argent qu'on gagne à côté permet d'investir dans des livres qui ne nous rapportent pas un centime, mais qui permettent d'exister. Donc nous, on a une chance et une malchance à la fois, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu un centime de subvention depuis qu'on existe. C'est pas qu'on n'a pas essayé, hein. On a fait des dossiers au CNL, on a fait des dossiers plusieurs fois. Et comme on n'a jamais rien eu, en fait, on a toujours fait nos projets sans se préoccuper d'avoir des subventions. Donc on fait absolument ce qu'on veut. Voilà, mais ça n'empêche que tout l'écosystème qui est autour de ça, parce que l'édition, c'est aussi un circuit d'imprimerie, de libraire, etc. Donc c'est aussi cette filière, ce qu'on appelle la chaîne du livre, qui est touchée dans son ensemble. Donc l'éditeur peut quand même faire des livres, mais si derrière, les acteurs du livre, les auteurs, les libraires, les médiathécaires, etc., sont à la peine, en fait, c'est un peu tout le monde qui en pâtit.
Donc si je comprends bien, vous augmentez légèrement les tarifs de vos prestations pour pouvoir éditer des livres.
Alors on augmente soit le tarif des prestations, mais bon, c'est pas le moment, soit le prix des livres, parce que un livre, vous connaissez le principe, il y a la loi Lang qui date d'il y a quelques années, je n'ai pas la date exacte, qui est le prix unique du livre. Donc le prix est censé être le même partout, petit 1, et petit 2 n'est pas censé changer. Et donc sur nos livres, on met le prix. Donc quand on a mis le prix, c'est le prix pour toujours. C'est-à-dire que les livres qu'on a sortis il y a 5 ans, c'est marqué 14,90€ dessus. Ben, en 2025, ça vaut encore 14,90€. Donc il faut faire attention à ça, à la fois rester accessible, ça c'est notre objectif, puis pouvoir aussi payer les auteurs et fabriquer des beaux livres, parce qu'un livre, un beau livre, ça se vend plus cher, mais c'est aussi un livre qui dure plus longtemps. Et dans le cas de Au Pays des Merveilles, voilà, c'est un beau livre, c'est un livre d'art, d'une certaine façon. Donc la fabrication est coûteuse pour qu'il dure longtemps et qu'il puisse être l'objet d'un beau cadeau.
En tout cas, il durera le temps de l'émission.
Au moins.
Au moins. De Brit, avant de signer un contrat d'édition, vous conseillez aux jeunes auteurs de vérifier la solvabilité de l'édition?
Oh non, c'est déjà un tel miracle d'être édité. Quand on tombe sur un pigeon, on va pas commencer à le plumer tout de suite. Non. Vous savez, moi j'ai de la chance d'être à la retraite, comme je disais précédemment. Donc la question financière sur un livre n'est pas primordiale pour moi. J'ai cette chance-là, donc tous les jeunes ne l'ont pas.
De Brits, des fois je te tutoie, des fois je te vois. Et là, je vais tutoyer. Tu as débuté ta carrière de dessinateur de presse en 1975, un peu plus d'un an après le premier choc pétrolier. En faisant cette remarque, je me demandais, est-ce qu'on est plus inspiré quand il y a matière au niveau actuel?
C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé ma carrière en 1974, il y avait encore énormément de journaux. J'ai cette chance-là de faire partie de la queue de la comète, comme je dis toujours, de mai 68. C'est-à-dire qu'après mai 68, tu as plein de journaux qui se sont créés. J'ai même publié, si mes souvenirs sont exacts, c'était en 76 à Rouge Quotidien, qui était le journal des trotskistes. À l'époque, les Trotskars, ils avaient quand même un quotidien.
Oui, il y avait 4 pages.
Oui, mais il y a quand même un quotidien. Et quand j'ai commencé ma carrière, non, c'était le choc pétrolier, on ne s'en est pas encore trop bien compte, nous, dans la presse.
Non, mais c'était juste dans l'idée que s'il y a un événement fort, on est inspiré ou pas.
C'est-à-dire que quand tu arrives sur le marché, si tu arrives à trouver une publication par mois, c'est déjà pas mal. Et bon, j'ai commencé ma carrière, c'était dans les journaux syndicaux, comme CFDT Syndicalisme, dans les années 76-77. Mais parallèlement, c'est pas ça qui me faisait manger. J'ai été embauché comme intermittent du spectacle. J'ai travaillé à Antenne 2 pendant 4 ans, de 76 à 80. Bon, je travaillais en moyenne comme intermittent, hein, donc 8 jours par mois, en moyenne. Et je faisais les génériques. On faisait les génériques le vendredi, par exemple, je faisais le générique apostrophe. J'arrivais à 9h, je finissais à midi, puis je faisais tout le générique. C'était écrit aux lettres A7 à l'époque, les jeunes ne savent pas ce que c'est.
Même les vieux comme moi.
Enfin, c'était une sorte de lettre transfert, on faisait ça avec un stylus, enfin bref. Il me fallait 3 heures pour faire le générique, et en 80, il y a une machine qui est arrivée qui faisait 105 minutes. Quoi. Donc ma carrière à la télé s'est arrêtée à ce moment-là, et puis mes dessins ont commencé à se vendre un peu mieux.
Oui, mais pour reformuler ma question, est-ce que c'est plus facile de dessiner, par exemple, sur un marronnier ?
C'est toujours plus facile de faire un grand dessin sur un grand sujet que de faire un grand dessin sur un sujet bateau. Moi, je me souviens, il y avait eu un livre qu'on avait fait en collaboration avec beaucoup de dessinateurs sur les droits de l'homme. Il était au Cherche Midi, si mes souvenirs sont exacts. Et le directeur de publication m'avait dit, Jean, je te le demande à toi, ils vont tous me faire le même dessin sur les droits de l'homme. Toi, tu vas me faire un dessin sur le bruit, tu vas me faire un dessin sur... Tu vois, parce que les droits de l'homme, c'est... Les gens, ils, tout de suite, c'est de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites chaînes, des machins. Lui, il voulait que j'aille sur une autre voie. Et je vais toujours sur une autre voie. Faire des grands dessins sur des grands sujets, c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile, si on peut en louper, heureusement d'ailleurs. On peut louper plein de dessins. Mais faire un grand dessin sur la hausse des taux d'intérêt, c'est plus compliqué, mais c'est plus passionnant. Parce que ça vous oblige à vous casser un peu la cervelle.
Un dessin sur le bruit, comment ça peut se retranscrire à la radio?
Si mes souvenirs sont exacts, j'avais dessiné un personnage qui avait des écouteurs comme toi, tu vois. Mais il y avait une machine à laver, une perceuse de chaque côté. Voilà, c'était ça à peu près.
Est-ce que tu es autodidacte?
Le seul permis que j'ai, c'est mon permis d'autodidacte, ça je dois l'avouer. Des dessinateurs de presse ont rarement fait de grandes écoles. Enfin, de grandes écoles, d'écoles d'art graphique. Le seul que je connaissais, hélas, qui est décédé maintenant, c'était Tignous, qui avait fait les arts déco, qui avait fait une école d'art graphique. Mais sinon, en général, on ne nous demande pas d'être Michel-Ange, on ne nous demande pas d'avoir un style. Il faut avoir une idée, qu'elle s'exprime rapidement et qu'elle soit. Voilà. Et puis, pas forcément qu'elle soit drôle, parce que souvent on dit, ouais, le dessin d'humour. Non, moi, je ne fais pas de dessin d'humour. Je ne suis pas un dessinateur drôle. Dans ma génération, enfin, ils sont un peu plus âgés que moi, les dessinateurs n'étaient pas forcément drôles. Le dessinateur de l'Express, Tim, n'était pas drôle. C'était magnifique ce qu'il faisait. Cardon au Canard Enchaîné, c'était pas drôle. Il y a plein de dessinateurs, on n'était pas forcément des dessinateurs d'humour. C'était des dessinateurs de presse.
La principale qualité d'un dessinateur de presse?
La qualité d'un dessinateur de presse. Alors, l'un des premiers conseils qu'on m'ait donné quand j'ai commencé ce métier, c'était, Jean, un dessin, une idée, et tu rends ton dessin à l'heure. Et dans le format. Dans le format, parce que moi j'ai cette chance, et je crois pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de dessinateurs qui ont eu cette chance-là, j'ai toujours travaillé dans les rédactions. J'avais mon bureau dans les journaux, j'ai travaillé 13 ans, si mes souvenirs sont exacts, à La Croix. J'avais mon bureau à La Croix, j'ai travaillé 28 ans au Figaro.
On va y revenir.
Et j'étais sur place. Et quand on vous donne un dessin dans un journal, on vous donne souvent un format. Si on vous dit deux col auteur, il faut faire deux col auteur.
La page blanche ?
Non.
L'angoisse ?
Non.
Le stress ? Non,
non.
Jamais.
Non. Non, jamais. Je suis une poule pondeuse. Poule pondeuse.
Du matin ou du soir ?
Tout le temps. Cela dit, un jour, si, la page blanche, c'est une anecdote qui m'était arrivée à La Croix. On me demande une idée, un dessin, je ne me souviens plus le sujet. Puis je ne trouvais pas d'idée. Je me dis, qu'est-ce que tu veux ? Puis je repense à une vieille idée que j'avais publiée dans La Croix il y a 4, 5, 6 ans. Hop, je la redessine. Je redessine l'idée. J'en ai pas dormi de la nuit. Je pensais que le lendemain, tout le monde allait s'en apercevoir. Personne ne s'en est rendu compte. Depuis, je recycle. Je suis devenu plus vert que les verts. Je recycle. Je recycle mes idées. Personne ne s'en rend compte, c'est tranquille comme ça.
Est-ce que tu te revendiques d'être un dessinateur de gauche ?
Ah oui, oui, pour en revenir à ça. J'étais à La Croix à l'époque, et c'est le Figaro qui cherchait un dessinateur. Et il m'avait appelé pour travailler dans les pages Opinion, c'était en septembre 88, si mes souvenirs sont exacts. C'était Gisbert, François-Olivier Gisbert, qui venait de prendre la direction en septembre 88 du Figaro. Il venait du Nouvel Observateur, et puis il aimait bien ce que je faisais, alors on a discuté, et puis il me dit, écoute, ici je n'ai que des dessinateurs de droite, j'aimerais bien avoir un dessinateur de gauche. Donc alors j'étais le dessinateur de gauche.
Comment on trouve sa place pendant 28 ans dans un journal tel que le Figaro ?
Ah, très très bien, j'ai jamais eu un dessin refusé, jamais eu aucun problème.
Et la Libye de gauche ?
Non, pas la Libye, mais ça faisait marrer. Certains journalistes politiques, oui, ça les faisait marrer que je sois de gauche, oui. Mais bon, il n'y a jamais eu de problème. Un jour, c'était un des directeurs qui me dit « on va faire une page sur la peine de mort ». Je lui dis « écoutez, monsieur Clos, moi je suis contre ». Il me dit « c'est pas grave, tu fais ce que tu veux ». À l'époque, c'était très bien. Puis tout s'est bolérisé maintenant, hein, maintenant le Figaro. Moi, quand un soir acheté en 2004, on m'a placardisé, on m'a interdit de dessiner, puis c'est tout.
C'est entré dans le dictionnaire, bolérisé ?
Ça va rentrer, à mon avis, rapidement.
Et alors, vous avez publié dans différents journaux. Le Dobritz du Figaro est-il le Dobritz de La Croix, de l'Unité, du combat socialiste, de Télé 7 jours ? C'est le même ?
C'est le même.
Il s'adapte à un public ?
Alors, non. Moi, on me reconnaît. Ça faisait, pour en revenir à T-News, qui était vraiment un très bon ami, il me disait toujours, mais comment tu fais pour changer de style tous les deux ans ? J'avais peur toujours d'être un OS du dessin de presse. C'est-à-dire que, une fois qu'on a acquis son style, on continue comme ça, il n'y a plus de surprise. Donc, quand je travaillais pour Télé 7 jours, c'était un autre style. Quand j'ai travaillé à l'aquarelle, j'ai travaillé à la plume, au pinceau, j'ai fait du lavis, j'ai fait du crayon de papier, voilà. En fin de compte, on me reconnaît plus par mon univers que par mon graphisme.
Il y a le style, mais il y a aussi le message. Est-ce que pour Télé 7 jours...
Je faisais des dessins sur la télé, oui, c'est sur l'univers de la télévision. C'était moins méchant, certainement, que ce que je faisais pour d'autres journaux, oui. Mais c'est toujours passionnant de faire des choses différentes. Sinon, on s'en croûte.
Mais tu prends plus de plaisir quand c'est méchant.
Je ne suis pas un dessinateur forcément très très méchant, moi. Je ne suis pas très très méchant. Les gens me disent que c'est de l'humour assez noir. Moi, je trouve ça plutôt... La méchanceté, qu'est-ce que c'est ? Je ne me moque pas des gens. Moi, ce qui me dérange maintenant, c'est que beaucoup de dessinateurs soient des moralistes. Et ça m'ennuie profondément. La morale, comme disait Léo Ferré, ce qu'il y a d'encombrant dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Donc le dessinateur, il est plutôt le spectateur de ce qui l'environne, du monde qui l'entoure. Il est plutôt là pour... mais pas pour donner des leçons de morale.
Et le plus loin que tu as poussé le bouchon ?
Je l'ai poussé loin, le bouchon.
Et pour donner des idées ?
J'ai été interdit de vente. J'avais fait un dessin qui était paru dans le Spiegel, à l'époque de Salman Rushdie. Et le Spiegel a été interdit de vente en Iran pendant un an, à cause de mon dessin, par décision du ministre des Cultes et de la Culture. Oh là là, ça c'est presque ma médaille de... il y a des dessins...
Il représentait quoi ce dessin ?
C'était l'époque des versets sataniques. C'était l'ayatollah Khomeini qui tirait sur un livre avec un revolver. Et le signé du livre, c'est une petite queue du diable. Ça n'avait pas plus.
Vous êtes bien sur Alternante FM, vous écoutez bien La Perle à rebours. Nos invités sont Dobritz et Cyrilda. Comme promis, nous allons mettre en onde deux albums de Dobritz parus aux éditions Velvet, au pays des merveilles, et Rock'n'Roll. Mais juste avant, puisque nous sommes à l'étage de La Perle, pour faire le grand écart, je vous propose un titre, une respiration musicale, l'Underground Velvet.
It's just a restless feeling by my side. just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning, and I'm falling. I've got a feeling I don't want to know.
Vous êtes bien sur Alternante FM, le 98.1 à Nantes, le 91 du côté de Saint-Père-en-Ré, Saint-Nazaire. Nos invités, Dobritz et Cyrilda, on va présenter deux albums parus aux éditions Velvet, Au Pays des Merveilles et Rock'n'Roll. En feuilletant Au Pays des Merveilles, Dobritz, je me suis dit chouette, il y a peu de texte, je vais gagner du temps dans la préparation de l'émission. Et en fait, je me rends compte que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de regarder le dessin. Alors il y a ce qui vient en premier, le flash. On a compris l'intention de l'auteur. Et puis après, on essaye d'observer les détails.
C'est une anecdote qui m'est arrivée au Figaro comme ça. Quand j'ai commencé à dessiner au Figaro, je suis un dessinateur qui emploie très très peu de mots. Je suis un dessinateur graphique.
Vous n'avez pas de vocabulaire.
Voilà, c'est très peu de vocabulaire. Donc j'aime bien le dessin sans texte. Je suis un fou de cinéma muet. Donc j'adore le cinéma muet. Donc j'aime bien les dessins. Et le dessin se faisait beaucoup sans texte à l'époque. À l'époque où j'ai commencé ma carrière, il y a des dessinateurs comme Tim, Serre, des gens comme Cardon, des gens comme Gourmelin ne mettaient pas de texte dans leurs dessins. Et donc je trouvais que c'était plus sympa de pas mettre de texte. Mais quand je suis arrivé au Figaro, évidemment, il y avait Faisan qui faisait la une, il y avait d'autres dessinateurs à l'intérieur, et moi, je mettais pas de texte. Je faisais des dessins muets. Et les premières lettres que je reçois au journal me disent « Oui, on comprend rien à vos dessins, qu'est-ce que vous voulez dire, machin, bidule. Les autres, ils mettent des textes, vous mettez rien. » Et puis, deux ans après, l'année suivante, je reçois certainement les mêmes. Ils me disent « Ah, mais vous avez changé de style, c'est bien, on commence à comprendre ce que vous faites. » Voilà. En fin de compte, non. C'est parce que les gens commençaient à regarder le dessin. Quand vous avez un texte, quand vous avez un petit dessin avec deux petits bonhommes qui discutent, vous lisez le texte, vous passez au suivant. Les gens, quand ils regardent un dessin dans le Canard Enchaîné maintenant, ils vous disent « Ah, j'ai vu un dessin dans le Canard Enchaîné, il est marrant. » Ils vous racontent la bulle. Puis le dessin, ils ne savent pas qui l'a fait, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc moi, je suis un dessinateur, évidemment, où il faut apprendre à regarder le dessin. Voilà.
Le dessin suffit, en fait.
Le dessin force. Suffit, bien sûr.
Il a sa force. On a un lecteur de dernière minute, Philippe, en extase devant un dessin.
C'est vraiment de dernière minute. Je viens de découvrir, mais c'est des fois un exercice intéressant de feuilleter et de donner un avis sur... tiens, choisis un dessin et donne ton avis. Donc, alors, c'est même pas un avis. Alors, à la fois, j'ai feuilleté, puis j'ai laissé faire le hasard, et puis je suis tombé à la page 41 de cet album qui s'appelle « Au pays des merveilles ». Il n'y a pas beaucoup d'Alice, d'ailleurs, il y a plutôt que des garçons. Et j'ai choisi à la page 41 le dessin d'un homme qui met dans une boîte postale qu'on trouve de moins en moins, puisque effectivement c'est Internet qui remplace les postiers. Et donc ces boîtes jaunes, vous savez, qu'on avait dans les rues où on pouvait mettre notre courrier, nos cartes postales qu'on envoyait à grand-mère. Et là, il met une bouteille avec un message dans une bouteille, comme on met une bouteille à la mer. Là, il la remet à la poste. Et en même temps, l'orifice est comme un orifice de recyclage. On a parlé de recyclage tout à l'heure. Donc, que va devenir ce message? Est-ce que le postier, est-ce que nos services de la poste, services que le monde nous envie, vont réussir à trouver ce message et l'envoyer au bon destinateur? J'ai trouvé ça très, très beau, très intéressant, à la fois très poétique. Tout l'album que j'ai feuilleté rapidement est à la fois un peu noir, mais genre humour noir et autodérision. Et puis, on a parlé de Léo Ferré, ça m'a parlé aussi beaucoup. Je trouve que c'est peut-être le mot espoir qui tout d'un coup me vient pour conclure ça.
Et derrière, il y a des inscriptions sur les murs.
Oui, sur l'interdiction d'afficher, la loi de 1800, je ne sais plus combien. Mais comme on rénove les villes,
on les efface.
En général,
oui,
on les efface. On rénove, oui. Donc,
c'était marrant, ces grands panneaux qui pouvaient faire des fois 50 mètres de long.
Sur des énormes murs, notamment des préfectures, des murs officiels, où il n'y avait surtout pas le droit de dire ce qu'on pensait.
Et sur le trait, Philippe?
Un trait fin, un trait travaillé. Alors ça m'a fait penser, on a parlé de Serre, et moi j'ai pensé à Serre, j'ai pensé à Lou aussi.
Ah oui, Lou, c'est un bon ami aussi.
Très, très j'aimais beaucoup quand j'étais, que je lisais beaucoup. Oui, mais c'est du très fin qui va dans le détail, mais qui nous dit plein de choses.
C'est-à-dire que quand j'ai fait le livre, il n'y a qu'un retraité qui peut se permettre de faire ça, parce que ça représente entre 3-4 jours, 5 jours des fois de dessin. Travail. Ouais. Donc les journaux peuvent plus s'offrir ce genre de dessin.
Non, il faudrait être payé à la ligne ou au point.
Voilà, il faudrait être payé. Voilà. Donc un retraité grassement payé par l'État peut maintenant se permettre de faire ce genre d'ouvrage.
Vive la retraite.
Vive la retraite.
C'est du 50 nuances de gris.
Nuances de... Oh, monsieur, 50 nuances de gris. Il n'y a que du noir et blanc.
Du noir et blanc, mais le noir j'ai et pas blanc, voulu... c'est du gris.
Aussi. Oui, mais j'ai pas voulu mettre de gris. Enfin, de gris, d'aplat.
Donc c'est 50 nuances de noir.
50 nuances de noir, voilà.
Qu'est-ce qui a séduit l'éditeur? Et puis comment il a organisé l'édition?
On n'a pas beaucoup organisé ce livre, en fait. De Bruyt avait déjà son projet. Donc je crois qu'on a ôté quelques dessins du projet, mais pas beaucoup.
Ah non, aucun.
Eh ben même pas, bon voilà.
Non, aucun.
On a tout laissé.
Par rapport sur Rock'n'Roll, oui, t'en avais enlevé.
Ah oui, voilà, je confonds avec Rock'n'Roll, pardon. On a un livre de strip avec des rochers dont on parlait tout à l'heure, où il y avait un peu plus de strip que ça au départ. Voilà. Mais sur Au Pays des Merveilles, on a tout gardé. Et on a même gardé l'ordre, parce qu'en fait, c'est comme ça que De Bruyt a travaillé. Donc on sait que le temps qui joue dans la construction de ce dessin, tu viens d'en parler... voilà, 5 jours sur un dessin, du coup les 5 jours d'après sur un autre dessin, ils viennent aussi dans la continuité du dessin d'avant. Donc on a simplement réfléchi à faire respirer un petit peu le livre, donc on a quelques césures, des pages blanches avec des petits détails qu'on a sortis des dessins. Pas pour séquencer et expliquer le livre, mais c'est comme une galerie ce livre en fait. Voilà, il y a 100 dessins et on se promène dans l'ordre que l'auteur a voulu. Simplement. Et après, l'autre travail, c'est sur la fabrication elle-même du livre, c'est-à-dire voilà, l'objet, c'est du relié avec une impression offset pour la couve, etc. Mais sur le contenu, De Bruyt a même signé sa préface, donc on a juste à corriger. Ouais. Et voilà.
On est mieux servi que personne.
Bon, tout à fait.
Ça illustre ta fibre écolo, ta fibre critique sociale. Parfois, c'est très poétique, puis des fois, c'est plus...
Il y a des fois, c'est plus méchant, il y a des fois... Non, mais c'est... Quand je commence un livre, c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit dans la continuité. Les premiers dessins sont moins travaillés que les derniers, donc je voulais qu'on voit la progression, parce qu'au début on se dit bon, je vais essayer de trouver un style pour essayer de faire un nouveau livre, on part et puis petit à petit tout se complexifie, on finit par faire les brins d'arbre un à un, donc je voulais que ce soit dans l'ordre où j'ai fait les dessins, et plus ça allait, plus ça devenait compliqué.
Philippe, est-ce que tu peux décrire le premier dessin?
La page 1, tu veux dire.
Mais il est complètement différent graphiquement du dernier.
C'est un homme qui est assis peut-être sur un rocher. Il est entouré de deux arbres avec des trous. Il y a une petite maison, un petit village au fond. Il y a un décor général. Il est dans la clairière d'une forêt. Et devant lui, un arbre tronçonné à hauteur d'un tabouret, justement, de 50 cm à peu près, sur lequel un tourne-disque, enfin le manche d'un tourne-disque, vient dans les sillons de l'arbre. Et vous savez qu'on connaît l'âge de l'arbre avec ses sillons circulaires. Et donc, comme un phonographe, alors après, qu'écoute-t-il? Qu'entend-il? Qu'est-ce qui est enregistré dans cet arbre? Voilà, donc c'est très poétique, avec beaucoup de sens qu'on peut découvrir chacun.
C'est-à-dire que quand j'ai commencé, en fin de compte, cette idée, je l'avais déjà faite. Mais Elle était juste la souche avec le manche du disque.
Phono, ouais.
Et en fin de compte, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est, en fin de compte, ce qui était important, de plus en plus petit dans les dessins. Plus ça allait, plus les détails... C'est, en fin de compte, on voit le dessin, mais après, il faut chercher le détail qui va donner le sens au dessin. Et comme ça, à un moment donné, il y a un tank avec un canon et il y a un petit escargot où il y a écrit UN, de, je crois que c'est Unité de Nation. Bon, c'est l'escargot, il est tout petit. Il est tout petit. Mais on le voit, il est tout petit. C'est pas la chose qu'on voit en premier. Ouais. On voit le canon d'abord et après, on voit le symbole de la paix qui avance calmement. Quoi.
Philippe se demandait quel titre était... possible d'écouter ce son, mais le sillon, c'est un sillon rond. En fait.
Oui,
c'est en boucle. Donc
voilà.
Il n'y a pas de musique. En fait.
Non. Comme disait c'était Robert Le Vigan dans Quai des Brumes, ouais. Il disait « Je peins les choses qui sont derrière les choses ».
J'ai tenté quelque chose en direct, c'est une émission publique. J'ai demandé à François Bernard s'il veut bien se rapprocher d'un micro. Je lui ai fait aussi découvrir le livre et j'aimerais bien lui donner la parole. Non, il y a un micro. Là.
Pas moyen de faire rater ce direct.
Non, mais on est sur alternante. Tu as découvert, comme Philippe, le dessin. Et tu as trouvé ça chouette. Et j'ai du mal à complimenter les gens. Donc,
moi, j'ai aucun problème. Surtout quand c'est bon.
Bah, c'est gentil.
C'était un survol très rapide. Ce que j'ai aimé, c'est que chaque page parle. Chaque page raconte une histoire... offre une idée, et c'est toujours des bonnes idées, donc c'est un vrai bonheur de lire ce livre.
Bah, c'est gentil.
Ça suffit.
Et alors, est-ce qu'il y a un dessin qui particulièrement...
C'est marrant parce que tout à l'heure, quand Philippe a envisagé le premier dessin, j'étais aux toilettes, pour être très franc, mais j'écoutais l'émission sur Alternante, 98.1.
Ah, on est diffusé dans les toilettes.
Ouais. Eh bien, le premier dessin que Philippe a décrit, je l'avais repéré, parce qu'effectivement, il a un impact fort. Ce type qui est devant la boîte aux lettres et qui... envoie son message à la mer, entre guillemets, dans la boîte aux lettres de la poste. J'ai trouvé ça...
C'est un des rares dessins où il y a une suite. Il y a trois dessins. Il y a celui-là. Et puis après, la bouteille va à la mer. Et effectivement, après, il arrive au centre de tri.
Immédiatement.
Oui, tout derrière.
41, page 41.
41. Alors, j'y vais.
J'ai pas fait le lien tout de suite. Mais parce que j'ai fait...
Non, mais il y a une suite entre...
On travaille sur l'unité. On ne savait pas qu'il y en avait trois. Alors, j'y vais.
Tout ça, c'est en direct, c'était pas préparé.
Non.
Et moi, je comble juste les petits blancs.
Mais c'est pas page 31. C'est pas grave.
C'est 42. 42.
C'est vraiment pas préparé. Non.
Les pages sont correctement numérotées dans le livre.
Non, mais.
Ça fait des années.
L'éditeur est joueur, il s'amuse à mélanger le foliotage.
C'est marrant parce que je veux dire, à chaque fois que j'ai tourné une page, je me suis entendu faire. Tu vois, ce genre de truc. Oui, c'est une bonne idée. C'est systématique. Non, mais sur ces... Combien il y a de pages?
Il y a 100 dessins en tout.
121 pages.
Non, mais 100 dessins en tout. J'ai fait 100 dessins.
100 dessins qui font... C'est vrai, je veux dire, c'est quand même le signe d'un bon livre. Est-ce que le compliment est suffisant? Est-ce que je peux retourner à ma place?
Tu peux retourner à ta place.
C'est-à-dire que le livre, je l'ai commencé... C'est un livre qui s'échelonne sur plusieurs années quand même. Parce que quand je dessine comme ça, je passe 3-4 jours par dessin. Au bout de 2-3 mois, j'en ai un peu marre. Et c'est pour ça que j'ai alterné avec Rock'n'Roll, où c'était beaucoup plus rapide comme dessin.
Il y a une tradition
oui.
Dans Perle Harbour, s'effacer pour laisser la place à la chorale à géométrie variable de la Perle. Je rappelle, il y a une commande adressée au chef de chœur, Laurent Messager, illustrer le thème du magazine. Et je vais, comme vous, découvrir le résultat.
Bonjour. Heureusement, aujourd'hui, je suis accompagné de Philippe, parce que j'avais vraiment besoin de son soutien. Et maintenant, j'ai envie d'écrire. On ne va pas exposer le pourquoi du comment aujourd'hui. Et je me suis servi de chansons de Charles Trenet, de mélodies de Charles Trenet, pour essayer d'apporter un peu de joie et un peu de bonheur à travers la chanson. Je vente soir et matin le haut pays des merveilles. Je croque dame nature et la lune belle allure. Et tout y... en pâture, il y a un banc. Bonjour, bonjour, la ritournelle en sous-bois. La détresse de celui qui a pas au destin. Tel le crayon n'a pas bonne mine, gobe la lune et le jour crie au secours. La terre, le ciel ont donné bouture contre nature à la structure. Dans le dur, la bourse s'est fendue d'un euro et j'étouffe, dit Pierrot. Envoie-moi un pruneau. Un pruneau? Il y a Dobritz qui te dessine tout ça, ses paroles s'envolent par-dessus son bras. Réfléchis, il ne manque pas à la besogne, c'est un livre miroir, il faut le croire. La la la, la 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 la. Ça c'était le plus facile à écrire.
Merci, on peut applaudir à Laura, la géométrie variable de la perle. Laurent Messager, Philippe Boisdron.
Pour rebondir sur Trainer, dont je suis un fervent admirateur, j'ai beaucoup de disques de lui, et c'est une des discussions que nous avions souvent avec Cabu. On parlait, il adorait Trainer aussi. Les gens croient toujours que c'est très gay, mais moi qui ai pratiquement toute sa collection, je peux vous dire que les gens se suicident beaucoup, sont souvent assassinés, sont souvent morts. Les gens s'imaginent que Trainer, quand il chante « je chante soir et matin sur les chemins », c'est quand même un type qui se pend dans sa cellule à la fin, même. Donc voilà, ça c'est... Je voulais dire ça, et c'est un peu le sujet de mon livre, en fin de compte. On croit que c'est gay, mais non, c'est pas très gay.
Ah, donc les lecteurs, lectrices vont se suicider après.
Voilà, les vendeurs de cordes vont faire fortune.
Il nous reste quelques minutes pour revenir donc un an en arrière. Quand on fait référence à Rock'n'Roll, il était plus gros. À l'époque, il y avait peut-être plus de sous pour éditer.
Disons qu'il a été plus rapide à faire. Là, je pouvais faire 5-6 dessins par jour. Là-bas, il me fallait plusieurs jours.
Oui, c'est la différence entre Rock'n'Roll, qui est un album de strip avec des rochers en noir et blanc,
voilà,
et du dialogue, ça, et des dessins au trait qui prennent une semaine à Dobritz pour le second album.
Moi, je le découvre, donc il est plus bavard et minéral.
Voilà.
Alors, on a eu pour ce livre la joie et la fierté d'avoir une préface de Frémion, le chroniqueur de Fluide Glacial bien connu. Et il explique ça très bien dans son texte. En fait, Dobritz a fait passer un casting à des cailloux. Donc, il a eu des cailloux qui sont venus dans son bureau. Il les a fait jouer des rôles. Et ensuite, il a retranscrit tout ça en dessin. Et donc, ça donne presque 200 strips, je crois.
Il y a 220, quoi.
Voilà. De dialogues entre des cailloux, des rochers, des dolmens, des menhirs, toutes sortes. Voilà. D'où l'univers minéral dont vous parliez tout à l'heure. Et nous, ce qu'on a adoré dans ce projet, c'est que ça démarre avec deux menhirs qui parlent. Et ça finit sur des menhirs qui vont chez le psy parce qu'ils ont des troubles de la personnalité. Et donc, ça, c'est tout le génie de Dobritz de nous emmener dans un univers d'abord poétique et loufoque, et ça finit sur l'absurde, le second degré, presque le grand n'importe quoi, et on doit trouver ça très très fort. Quoi.
Les cailloux ont tous le même prénom ?
Ils sont tous différents.
Moi je les appellerais Pierre.
Moi. Wow, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une belle idée.
Mais il s'appelle Pierre, et sur cette pierre, nous avons
bâti un livre.
Philippe va le découvrir en direct.
Oui, je fais un parallèle avec l'autre livre.
Parce que c'est peut-être risqué, non ?
Non, parce que je vois que sur Pays des Merveilles, à la page 97, il y a un très très beau... Ça rappelle à ce qu'on disait tout de suite sur la défense d'affichés, parce qu'il y a un menhir et dolmen assemblé, où il est marqué « défense d'affichés ». Donc ça, je trouve ça très 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 drôle.
Oh, c'était pour un rappel, justement, à Rock'n'Roll, celui-là. J'aime bien faire des rappels comme ça entre les livres. Ouais. Quand je les fais, il y a toujours un dessin qui rappelle l'autre, qui rappelle le livre précédent.
Ça, non, c'est pour forcer sympa. Les ventes des précédents ou des futurs. Non,
tout n'est pas que marketing, Michel.
Bah, oui, Michel.
Non, très bien, ça.
Oui, très bien.
Je dis très bien.
C'est important comme commentaire. Très bien.
Ouais. Voilà.
Donc on sait que c'est très bien.
Voilà.
On pourra le mettre en bandeau rouge sur le livre. On va mettre très bien, très bien, alternante. Voilà,
ça, non, Philippe.
Voilà. Ah, vous assumez pas collectivement.
Si, j'assume. Juste pour conclure, Dobritz, tu travailles sur un roman graphique de 210 pages.
Actuellement, oui.
Ça fait 15 ans que tu es dessus. Tu n'étais pas prêt. J'ai juste
entendu
une conversation secrète entre vous.
Non, non, c'est un livre que j'avais sorti il y a une quinzaine d'années. Il n'a jamais été pratiquement distribué. Il n'était vendu que dans une librairie. Il avait été tiré à 300-400 exemplaires, comme ça, j'avais fait ça assez rapidement, enfin bon, rapidement il faut le dire, et là je me suis dit je vais quand même changer un peu le scénario et redessiner tout le livre, pour ça je sais qu'il y a à peu près 200-210 pages, 210 planches, on dit en BD.
C'est des personnes qui ont perdu la parole.
Ce sera de toute façon 210 pages, il n'y a pas de texte, oui.
C'est une BD muette.
Voilà, c'est une BD muette, oui.
Et un roman graphique sur quoi ?
Oh, ça se passe dans un futur, je ne sais pas, c'est incapable d'expliquer...
Ça donne envie d'éditer.
C'est ce que je te disais. Je ne sais pas s'il l'éditera, mais c'est très difficile d'expliquer les dessins. Enfin, pour moi, c'est difficile d'expliquer mes dessins. C'est compliqué d'expliquer un dessin à la radio. On ne voit pas. C'est pas facile. Hein.
Philippe.
À part dire que je suis génial, que tout est bien, voilà.
Non, mais ça demande de l'expliciter un peu. J'en choisis un. Juste la page 34 de cette nouvelle édition.
Rock'n'Roll.
Il y a une petite pierre que je trouve très gentille, toute seule, comme ça, sur une bord d'une route, où il y a un panneau routier. Vous savez, les panneaux routiers qu'on connecte, un triangle rouge qui entoure une falaise qui s'écroule. Et donc, on se dit, il y a un danger, il peut y avoir des pierres qui s'écroulent. Et là, la petite pierre est toute surprise de voir des panneaux routiers identiques qui s'écroulent, qui indique que ça va s'écrouler. En fait, c'est les panneaux qui s'écroulent. Ça, je trouve que c'est un retournement de sens d'une poésie et d'un surréalisme qui me plaît beaucoup.
Moi, j'aime beaucoup que tu aies trouvé que la petite pierre était très mignonne.
Oui. Oui. Le casting a été bien choisi, donc j'avais fait un bon casting.
L'avantage de ne pas produire de texte, c'est qu'on peut être publié dans tous les pays du monde,
voilà,
à condition que l'humour soit compris de la même manière. Il est temps de vous remercier, les invités.
Merci beaucoup, Michel. Merci pour l'invitation.
Merci, Michel.
Cyril.
Et puis, merci d'être venu.
Mes complices, Laurent Messager, Philippe Boidron, Christelle Bilan, Nasser Zouran. Et puis, merci au public qui est resté sage. Héloïse, Valentin, Léo et Johanna. Et puis, remerciement particulier à François Bernard qui nous a fait profiter de ses impressions sur Au pays des merveilles, paru aux éditions Velvet. Voilà.